France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les attentats en Russie de 1999. Du 31 août au 16 septembre de cette année-là, ce pays est frappé par une terrifiante série de 5 attentats à la bombe à Moscou et dans le sud de la Russie. Plus de 300 morts et des milliers de blessés, le pays plonge dans l'horreur. Il s'agit à l'époque des plus graves attentats de l'histoire russe. Nommé quelques semaines plus tôt, le Premier ministre Vladimir Poutine se retrouve en première ligne. Et très vite, il accuse les indépendantistes tchétchènes. La seconde guerre de Tchétchénie commence. Seulement voilà, rapidement des doutes naissent. Que s'est-il réellement passé pendant ces semaines de fin août et début septembre ? Des déclarations, des événements, des zones d'ombre entourent cette série d'attentats. Et bientôt, une thèse voit le jour, les services secrets russes, voire le Kremlin lui-même. Le président Boris Eltsine et son entourage seraient liés à ces attentats. Pourquoi ? Pour régler le problème tchétchène en suspens depuis 1996, depuis la première guerre que les Russes y ont livrée, et faciliter l'ascension de Vladimir Poutine pour protéger Eltsine et ses proches, menacés par une série d'enquêtes pour corruption. Notre invité aujourd'hui, pour tenter de démêler les fils de cette affaire compliquée, Régis Janté, journaliste installé à Tbilissi en Géorgie. Il est notamment l'auteur de « Poutine et le Caucase », publié chez Bûcher et Chastel en 2014. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Simon Mézenobre, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
C'est août 1999, Daghestan. Dans cette petite république du Caucase, bordée par la mer Caspienne au sud de la Russie, une agitation inhabituelle vient perturber la période des récoltes. Depuis la Tchétchénie voisine, plusieurs milliers de combattants tchétchènes et daghestanais traversent la frontière et mènent une offensive dans des villages de la région de Tsoumada. À leur tête, deux hommes, le Tchétchène Chamil Basayev et le Saoudien Ratab. Ce Chamil Basayev est connu des autorités russes. Son parcours est aussi tortueux que les montagnes qu'il traverse. Formé au service de renseignement militaire russe, il est engagé pour la cause nationaliste tchétchène depuis près de 10 ans. Commandant en chef des forces indépendantistes, il a participé à la guerre de Tchétchénie en 1994, pendant laquelle il s'est fait connaître par la prise d'otage d'un hôpital qui a fait près de 150 morts. Un temps allié du gouvernement du président Machkalov, après la guerre, il a rompu avec lui et s'est petit à petit rapproché de l'islam wahhabite sur le fond et du djihad sur la forme. Le deuxième homme, c'est le Saoudien Ratab. Lui est à l'origine de la formation des djihadistes du côté de l'ancienne URSS, où il parcourt les régions à majorité musulmane pour recruter, entraîner et mener des offensives. Lourdement armés, arborant bannières noires et slogans islamistes, les opérations sont filmées et retransmises sur les télévisions du monde entier. Et Basayev explique ses objectifs.
Il est temps de nous libérer de la tyrannie des Russes. Nous devons poursuivre la djihad. Notre combat ne sera terminé que lorsque tout le Daghestan aura été libéré.
Cet événement de l'été 99 replace la Tchétchénie au cœur de l'actualité. D'une dizaine de milliers de kilomètres et d'un peu plus d'un million d'habitants, cette république est à la pointe des mouvements autonomes du Caucase depuis la fin de l'URSS. Dès 1991, elle déclare son indépendance. Elle est même la seule république ex-soviétique à refuser de ratifier le traité d'union proposé par Boris Eltsine. Cette résistance mène à la terrible guerre de Tchétchénie en 1994, conflit pendant lequel les Tchétchènes parviennent finalement à reprendre leur capitale, Grozny, et force la Russie à signer 2 ans plus tard les accords de Kassavyurt. Ces accords mettent fin à la guerre, mais surtout engagent les deux parties à revoir le statut de la Tchétchénie d'ici 5 ans, ce qui laisse la possibilité de l'indépendance en suspens. Il n'en reste pas moins que ce cessez-le-feu et ces accords sont vécus comme une humiliation pour l'armée, pour Boris Eltsine et pour une partie du peuple russe. Et du côté de la Tchétchénie, depuis 1996, la situation se complique. le président Aslan Maschkalov ne parvient pas à maintenir une unité nationale face aux différentes luttes internes. En juillet 1998, il est victime d'un attentat. Pour essayer de contrôler la frange islamiste, il introduit la charia, mais sans grand succès. Et il s'oppose immédiatement à l'incursion de Shamil Basayev au Daghestan, sachant pertinemment les risques encourus par cette initiative vis-à-vis du Kremlin. 9 août 1999, Moscou, autre décor, autre ambiance. Le Conseil des ministres est filmé et retransmis sur toutes les chaînes russes. Sergueï Stepachine, le premier ministre en poste depuis 2 mois, entre dans la salle, rejoint son siège, mais ne s'assoit pas. Non. Il marque un temps, puis il prend la parole. « Je ne vais pas m'asseoir pour ne pas m'accrocher à ce fauteuil », explique-t-il. Et il précise qu'il rentre au Daghestan, où la situation est particulièrement compliquée. Puis, alors sans transition, il annonce qu'il ne sera plus le Premier ministre.
Ce matin, de toute évidence, le Premier ministre russe n'avait plus le cœur à sourire. Je viens d'être reçu par le président, dit-il. Il m'a annoncé mon limogeage, m'a remercié pour le travail accompli, et puis il m'a renvoyé. Dans son allocution télévisée, le président russe ne prend pas la peine d'expliquer les raisons du limogeage de Stepachine. Il annonce, et pour la première fois, qu'il vient de désigner, en choisissant Poutine, celui qu'il veut voir lui succéder au lendemain de l'élection présidentielle de juillet prochain. Vous ne le connaissez pas encore bien, dit-il, à ses concitoyens, mais vous apprendrez vite à apprécier comme moi ses qualités humaines et professionnelles. Les moscovites réagissent avec résignation. Ils changent de premier ministre comme ils changent de slip. On aurait pu, à mon avis, laisser plus de temps à Stepachine. Au présidentiel, il n'a aucune chance. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui entourent Yeltsin, tous ceux qu'il nomme, vont finalement périr avec lui.
En Russie, dans le monde entier, on ne comprend plus rien à la politique russe. C'est le 5e chef de gouvernement en 1 an. En plus, un parfait inconnu. S'il manifeste que le pays traverse une crise profonde. Depuis 1 an, et le crack financier de l'été 98, et de la situation économique de la Russie est catastrophique. La confiance en Boris Eltsine, président depuis bientôt 10 ans, père de la fin de l'URSS et de l'ouverture au libéralisme, est particulièrement érodée. Malade, notoirement alcoolique, l'image de Boris Eltsine est au plus bas. Après 2 mandats, il ne peut plus se représenter, mais c'est pour son clan et son parti que clairement les législatives à venir dans quelques mois se présentent mal. Quant à la présidentielle prévue dans 1 an, elle commence, elle, à inquiéter Boris Eltsine et son entourage, qu'on appelle la famille, composée de sa fille Tatiana et de son compagnon Valentin Youmachev, de l'oligarque Boris Berezovsky et du chef de l'administration présidentielle Alexandre Volochine. C'est que depuis quelques mois a éclaté le scandale Mabetex, du nom d'une entreprise suisse par laquelle tout ce beau monde est soupçonné d'avoir procédé à des transactions financières illégales, accumulant des sommes énormes sur des comptes à l'étranger. On parle de près de 60 millions de dollars. Le principal adversaire d'Eltsine sur la scène nationale, Yevgeny Primakov, ancien Premier ministre, a fait ouvrir une enquête menée par le procureur Yuri Suratov. Mais quelques mois après le début des investigations, une vidéo où une personne ressemblant fortement à ce même Yuri Suratov, en compagnie de 2 prostituées dans un hôtel, est diffusée. L'intéressé dénonce un coup monté. Il ne s'agirait pas de lui sur la vidéo. Mais sous la pression, il finit par démissionner. Une opération de déstabilisation menée en coulisses par Vladimir Poutine. Un test de fidélité pour celui qui se retrouve désormais sur le devant de la scène. Une situation évidemment dominée par la situation d'Aghestan à ce moment-là. De son côté, l'armée russe commence à se répliquer. L'armée de l'air bombarde les positions islamistes. Sous la pression, le groupe de Basayev et Ratab quitte le Daghestan et rejoint la Tchétchénie. Le 26 août, 3 semaines après sa nomination comme Premier ministre, Vladimir Poutine se présente au Conseil et se félicite du succès des opérations militaires. La situation est revenue à la normale et l'aventure des séparatistes islamistes est un lointain souvenir. Bien. Pourtant, quelques jours plus tard seulement,
l'explosion s'est produite vers 19h30, 17h30 heure de Paris. Il y aurait une quarantaine de blessés, dont 5 graves. Parmi ces blessés, 4 enfants. 32 personnes ont dû être hospitalisées. L'acte terroriste demeure la principale hypothèse. Le maire, Youri Louchkov, a précisé qu'il faudra attendre pour savoir si on a affaire à des professionnels. Mais beaucoup pensent maintenant à la piste tchétchène.
31 août 1999, place du Manège, Moscou, une bombe explose et une personne est tuée. Le traumatisme est profond. La capitale est touchée en plein cœur, à quelques mètres du Kremlin. Un temps, on pense qu'il s'agit d'un groupe d'étudiants anticapitalistes qui visait ce centre commercial inauguré en grande pompe par Boris Eltsine quelques années plus tôt et s'amolle de l'ouverture au libéralisme. Mais quelques jours plus tard, le 4 septembre,
l'explosion d'une bombe dans un immeuble où vivaient des familles de soldats russes a fait au moins 22 morts et 102 blessés. L'attentat perpétré par les rebelles islamistes a fait mouche. Le Conseil d'État du Daghestan a demandé à la population de se mobiliser contre les islamistes. L'onde de choc politique de cet attentat a également atteint Moscou. Boris Eltsine.
Il est 9h40, ce 4 septembre, quand une voiture piégée explose près d'un immeuble de la ville de Ounask, au Daghestan. Le bilan fait état de 64 morts et plus de 130 blessés. Immédiatement, le lien est établi avec l'attentat de Moscou et, inévitablement, les regards se tournent vers la Tchétchénie. Le 9 septembre, donc 5 jours plus tard, de nouveau, un immeuble explose dans le sud-est de Moscou. Et puis le 13 septembre, nouvel attentat.
Cet homme fait partie des 4 seuls survivants, extraits des décombres, dans les minutes qui ont suivi l'explosion. Depuis, les sauveteurs fouillent sans relâche un amas de gravats de 6 mètres de haut, sans trouver signe de vie. C'est tout ce qui reste de l'immeuble de 8 étages, soufflé par l'explosion ce matin à 5 heures.
Les gens couraient partout dans la rue, sans même s'être habillés. On ne peut pas le raconter.
Puis le président russe s'est adressé à la nation. Les terroristes, a-t-il dit, ont déclaré la guerre à la Russie.
Citoyens de Russie, ce jour est un jour de deuil. Nous devons faire face à une nouvelle tragédie. Encore une fois, il y a eu une explosion. Encore une fois, il y a des victimes.
Puis de nouveau, quelques jours plus tard, le 16 septembre.
Cette fois-ci, l'immeuble visé ne s'est pas effondré, mais il est éventré sur 8 étages. Cette fois-ci, les auteurs de l'attentat n'ont pas pu ou pas voulu miner les fondations. Ils ont utilisé un camion piégé garé au pied du bâtiment. La charge a explosé à 6 heures du matin, au petit jour et non en pleine nuit comme à Moscou, ce qui laisse espérer que le bilan sera moins lourd. Mais comme à Moscou, les terroristes ont choisi un immeuble d'habitation anonyme, d'un quartier populaire, d'un quartier pauvre, un immeuble impossible à protéger. Il s'agit bien de faire savoir que les auteurs des attentats peuvent frapper n'importe où, n'importe quand, pour provoquer un climat de psychose. Depuis le 31 août, la Russie vit au rythme d'un attentat tous les 4 ou 5 jours. Il s'agit bien d'une véritable campagne planifiée depuis longtemps et si implacablement orchestrée que les Russes doutent de plus en plus de la piste officielle, celle de terroristes islamistes.
Au total, en 3 semaines, le bilan des 5 attentats qui frappent la Russie est terrifiant. On compte plus de 300 morts et des milliers de blessés. C'est simple, jamais la Russie n'avait connu des attentats d'une telle ampleur. Alors la terreur gagne tout le pays, que ce soit à Moscou, mais aussi dans le nord du Caucase, à la frontière tchétchène et au Daghestan. Le sentiment d'insécurité gagne la population. Pour les autorités, il ne fait aucun doute qu'il s'agit du terrorisme islamiste. Le mode opératoire se rapproche de l'attentat contre le World Trade Center à New York, celui de 1993. Une voiture contenant 700 kilos d'explosifs avait explosé dans les sous-sols de la Tour Nord. Et donc, tous les regards se tournent vers la Tchétchénie, où se sont réfugiés et cachés Bassaïev, Ratab et leurs hommes. Ainsi, le 14 septembre, Vladimir Poutine prononce un discours à la Douma devant les députés. Aujourd'hui, la Tchétchénie, partie intégrante de la Russie, représente une anomalie internationale. Elle est quasiment devenue un camp d'entraînement légal pour terroristes, dit-il. Une déclaration qui change tout. Car maintenant, il ne s'agit plus seulement des terroristes, mais bien de la République tchétchène dans son ensemble. Et il enchaîne Poutine quelques jours plus tard avec cette déclaration qui en dit long sur le Poutine qu'on connaîtra plus tard.
Nous poursuivrons les terroristes partout où ils se trouvent. S'ils sont à l'aéroport, nous irons les chercher à l'aéroport. S'ils sont aux chiottes, nous irons les buter jusque dans les chiottes.
les butait jusque dans les chiottes. Jamais un responsable politique russe n'avait utilisé son langage, qui est celui de la mafia ou du gangstérisme. L'expression, de fait, frappe les esprits. Et désormais, tous les regards se tournent vers la Tchétchénie. Parce que ça semble clair, derrière l'opération antiterroriste annoncée, la seconde guerre de Tchétchénie n'est plus qu'une question d'heure. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les attentats en Russie, la guerre en Tchétchénie.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
On ne sort plus de Tchétchénie. Depuis le début du week-end, les troupes russes se sont déployées tout au long de la frontière de la petite république et retiennent les populations qui cherchent à s'enfuir. 30 000 soldats, de l'artillerie, des blindés, un cordon sanitaire selon Moscou, destiné à empêcher des attaques des indépendantistes islamistes contre les villes de Kassavyurt, Kizliar ou Babayurt, dans le Daghestan voisin. Si des milliers de civils fuient la frontière, c'est pour éviter ceci, des bombardements de plus en plus intensifs de l'armée russe en territoire tchétchène, sur ce qui est censé servir de base arrière aux rebelles islamistes, et tant pis pour leurs habitants. À la télévision russe aujourd'hui, Vladimir Poutine, le Premier ministre, a réaffirmé que la guerre au Daghestan et les attentats des dernières semaines étaient liés. Seule solution pour la Russie, selon lui, liquider leurs auteurs. Alors à la frontière, les troupes russes continuent de se déployer. Face à elle, 2000 rebelles islamistes qui se terrent. Tout est en place pour une nouvelle guerre dans le Caucase.
De fait, le 1er octobre 1999, les troupes russes entrent en Tchétchénie. Au centre de toutes les attentions et de tous les débats s'impose la figure du Premier ministre, Vladimir Poutine, qui apparaît en chef de guerre, en leader, fort, intransigeant. L'antithèse d'Eltsine, en quelque sorte. Jeune, dynamique, présent, Poutine parvient à la fois à maintenir sa fidélité et son lien avec le président, tout en se détachant de lui et en amorçant une sorte de continuité. Lui, qui était inconnu de 72% des Russes, estimé à 1% des intentions de vote au moment de sa nomination, en est aujourd'hui à 15% dans les sondages. Bon, c'est mieux, mais c'est encore derrière l'ancien Premier ministre, Evgeny Primakov, donné lui à 20% et dont on suppose les intentions de faire tomber Boris Eltsine et ses proches. La famille au pouvoir n'est donc toujours pas à l'abri. Il faut continuer à pousser Poutine. Ainsi, l'opération antiterroriste, comme elle est nommée, reste-t-elle au centre des attentions ?
La lutte antiterroriste a été baptisée Opération Tornade. La mobilisation des forces de l'ordre partout en Russie est impressionnante. Le pays est quadrillé, tous les entrepôts, les locaux inspectés. Pour les autorités, le doute n'est pas permis. Ces actes de barbarie sont l'œuvre d'un groupe islamiste entraîné en Tchétchénie. Les Caucasiens deviennent donc inévitablement la cible des contrôles.
Il n'y a pas de nationalité terroriste, ça n'existe pas. Et puis moi, je suis caucasien, mais j'habite dans les mêmes immeubles que les Russes. Je ne peux pas faire 2 mètres dans la rue sans être contrôlé. Ils cherchent des coupables, ils cherchent des caucasiens, alors qu'est-ce que vous voulez ?
Et du côté de l'enquête sur les attentats, rien n'avance vraiment. Certes, fin septembre, Vladimir Poutine a publié une liste d'une dizaine de noms recherchés, liste dans laquelle on ne trouvait d'ailleurs aucun Tchétchène. Mais les 10 personnes qui constituent cette chasse à l'homme ont quitté le pays et sont introuvables. Et depuis, aucune avancée concrète. Pire, les débris ont été déblayés en un temps record, alors qu'en temps normal, ces lieux sont préservés, fouillés, conservés pour la recherche des preuves. C'est comme si les attentats, pourtant à l'origine de l'opération en Tchétchénie, n'existaient plus vraiment. Alors la rumeur s'installe à la place du silence et, petit à petit, les doutes apparaissent, des soupçons voient le jour. Des journalistes disent leurs difficultés à enquêter, comme Alexis Venedikov ou le député Sergueï Kovalyov.
C'est impossible, je vous le jure, maintenant impossible, d'avoir l'information véritable sur cette région. Personne n'a cette information, sauf peut-être le Premier ministre. Je ne pense pas que c'est organisé par le Kremlin, ou par le président, ou par la famille, bien sûr que non. Moi, je pense qu'il y a les personnes subalternes, si on peut dire comme ça, qui ont aidé.
Je ne veux pas croire à cette version de cauchemar. Si on y croit, alors il faut abandonner tous les discours. Cela menace du fascisme.
Reprenons dès le départ. Pourquoi et comment cette rumeur grandit-elle ? Eh bien tout d'abord, a posteriori en tout cas, on se rappelle que des articles avaient déjà évoqué les risques d'attentats à Moscou. Dès juin 1999, 2 journalistes, Jan Blomgren du quotidien suédois Svenska Dagbladet et Giulietto Chiesa, correspondant du quotidien italien La Stampa, annoncent qu'un risque terroriste, soit de l'étranger, soit de l'État lui-même, est pressenti en Russie. En juillet, le journaliste russe Alexandre Gilin écrit dans le quotidien Moskovyanska Pravda que des attentats vont avoir lieu à Moscou. Quelques semaines plus tard, l'opération des rebelles Basayev et Ratab est lancée au Daghestan, à propos duquel les experts s'interrogent. Comment expliquer que les troupes russes, normalement postées à la frontière du Daghestan et de la Tchétchénie, aient laissé passer des rebelles ? Des journalistes expliquent que Volochine, le chef de l'administration présidentielle, membre de la famille, aurait rencontré, en secret bien sûr, Basayev sur la Côte d'Azur française quelques mois avant l'incursion des rebelles. Il aurait reçu 25 millions de dollars payés en cash par l'oligarque Boris Berezovsky, lui aussi de la famille. Et puis, on a intercepté des conversations téléphoniques que ce même Berezovsky a eues avec des chefs tchétchènes. Dans ces enregistrements, on les entend se plaindre de ne pas avoir touché l'argent promis. Oui. L'argent promis. Ces enregistrements sont diffusés dans la presse russe et face à ces révélations, Boris Berezovsky dénonce des montages, des trucages. Et puis bientôt, d'autres éléments apparaissent. Un député libéral rend public la transcription d'une séance de la Douma en date du 13 septembre. La Douma, c'est l'Assemblée en Russie. Ce jour-là, son président, le communiste Gennady Selnyov, interrompt les débats et déclare « Nous venons d'apprendre qu'un immeuble résidentiel a explosé cette nuit à Volgodonsk. » Or, l'explosion de cet immeuble a bien eu lieu, mais 3 jours plus tard. Pendant ce temps, car il ne faut pas l'oublier, l'opération antiterroriste, qu'il faut bien appeler la guerre, continue. Et les troupes russes se rapprochent de Grozny.
Les troupes russes vont-elles entrer dans Grozny, la capitale tchétchène? Les informations sont contradictoires, mais ce matin, l'armée russe était aux portes de la ville après la prise des dernières collines tenues par des combattants tchétchènes qui, de l'aveu même des Russes, ont opposé une forte résistance. De leur nouvelle position, les soldats russes voient la ville à l'œil nu. Grozny est à portée de canon, la ville est à demi encerclée, toutes les sorties vers le nord sont coupées. L'armée russe semble prête à entrer dans la capitale tchétchène, ce que dément encore le premier ministre de Russie. Nous n'allons pas lancer d'actions militaires de grande envergure, avec attaques de chars, assauts de villes, etc. On l'a déjà dit et on fait ce qu'on a dit. Quant à l'ennemi public numéro un du Kremlin, Chamil Basayev, que les Russes annonçaient avoir pris au piège dans un village du Nord, il était hier soir à Grozny, dans sa résidence.
Face à cette situation qui s'enlise, d'autres éléments surgissent. Le plus troublant est celui survenu le 22 septembre 1999, soit quelques jours après le dernier attentat. Ce soir-là, à Ryazan, une ville située à 200 km au sud de Moscou, un habitant observe depuis son immeuble une voiture se garer sur le parking de la résidence. Ce qui attire son attention, la plaque d'immatriculation, en partie recouverte d'un papier sur lequel est inscrit 62, le code de la région de Ryazan. On notera l'effort, moins la discrétion. Deux hommes sortent de la voiture avec des sacs et se dirigent vers les sous-sols de l'immeuble. Puis ils disparaissent. La police arrive et découvre les trois sacs. Dans l'un d'eux, des câbles, un détonateur et un minuteur fixés à 5h30. Les autres sacs contiennent de l'exogène, aussi appelé RDX, un produit utilisé dans les mélanges explosifs. Bref, de quoi pulvériser tout l'immeuble. Ce composant a été utilisé dans un autre attentat de la série. Vladimir Poutine s'empresse de saluer cet acte de vigilance et d'héroïsme, oui. Mais le lendemain, le 23 septembre, les trois hommes sont arrêtés et il s'agit d'agents du FSB. Mis en cause, les services secrets russes réagissent par la voix de leur chef Nikolaï Patrouchev. Le successeur de Poutine à ce poste explique qu'il s'agissait d'un exercice pour vérifier la réaction des citoyens et les dispositifs de sécurité locaux. Aucun risque donc, et puis les sacs étaient composés en réalité de sucre. Bon. Sauf que les services de police locaux insistent, et il s'agit bien d'exogène. Et puis c'est humiliant qu'on puisse penser qu'il n'est plus confondre avec du sucre. L'affaire de Ryazan change la donne. Parce qu'autant on pouvait imaginer que le Kremlin faciliterait l'incursion d'Aghestan pour déstabiliser la Tchétchénie, autant la piste d'un terrorisme d'État change le degré des événements russes récents. À partir de là, une question bien sûr se pose. Admettons qu'il y ait eu du contre-terrorisme. Pourquoi aurait-on organisé une telle opération? Et dans quel but? Un autre indice survient le 18 décembre 1999. Ce jour-là, Vladimir Poutine prononce un discours devant ses anciens camarades du FSB au cours d'une réception. Le discours est filmé et Poutine déclare sur le ton de l'humour que la situation est désormais de nouveau favorable pour les services secrets et qu'ils ont quelqu'un de haut placé au pouvoir pour s'occuper de leurs intérêts. Évidemment, il parle de lui-même. Et puis les législatives arrivent.
Vladimir Poutine a très habilement utilisé la Tchétchénie pour promouvoir un nouveau parti, l'Unité, 18% des intentions de vote. L'alliance entre le maire de Moscou et l'ancien Premier ministre Primakov a énormément souffert d'une terrible guerre médiatique menée par le Kremlin. Pas d'illusion ici, les législatives de demain seront seulement un galop d'essai, un test avant les présidentielles. À 6 mois du scrutin, l'homme fort, c'est le dauphin de Boris Yeltsin, le Premier ministre Vladimir Poutine. Mais pour remporter ce scrutin, il devra d'abord vaincre en Tchétchénie.
Le nouveau parti Yelensvo, qui veut dire unité, créé il y a à peine un mois avec un programme au contour flou, atteint les 23% aux législatives, juste derrière le parti communiste et ses 24%. Mais surtout, il relègue les favoris du parti de l'ancien Premier ministre Primakov à 13%. Voilà, la famille et Boris Yeltsin ont réussi leur pari. Remontée de pente politique au plus bas. Le lancement de la seconde guerre en Tchétchénie et l'occupation du terrain médiatique par Vladimir Poutine ont réussi à occulter leur bilan. La crise économique, les affaires de corruption. le nationalisme relancé, la fierté retrouvée, le soutien de l'armée, autant d'éléments qui replacent le Kremlin sur le devant de la scène. C'est pourquoi, alors même que l'armée annonce avoir rempli ses objectifs, le pouvoir russe maintient la guerre et l'occupation. Malgré la pression internationale qui parvient à mettre en place une médiation tout de même, la Russie annonce qu'elle va entrer dans Grozny. Le 19 décembre, lendemain des élections, elle ferme la frontière entre la Tchétchénie et la Géorgie, seule voie de sortie jusque-là. Et l'armée entre dans la capitale. Voilà, la situation en est là. Lorsque, quelques semaines seulement après les élections législatives, le 31 décembre 1999, soir de jour de l'an, Boris Eltsine s'affiche à la télé pour ses vœux à la nation.
Je pars. Je pars avant le terme prévu. J'ai compris que c'est nécessaire pour moi de le faire. La Russie doit rentrer dans le nouveau millénaire avec de nouveaux responsables politiques. Je veux vous demander pardon. Pardon pour tous les rêves qui ne se sont pas réalisés. Pardon pour tout ce qui nous paraissait simple et qui a causé tant de souffrances. Pardon de n'avoir pas su assumer vos espérances.
Pour les Russes qui assistent à ce discours devant leur télé, c'est la stupéfaction. Déjà, c'est la première fois qu'ils entendent un président demander pardon. Et toutes les chancelleries du monde hallucinent. Mais enfin, que se passe-t-il en Russie? Rien n'est lisible. Ainsi, au moment de passer le millénaire, Boris Eltsine démissionne et, comme le prévoit la Constitution, laisse la place à Vladimir Poutine, son premier ministre. D'ailleurs, où est-il Poutine au soir de cette annonce? Eh bien, dans un hélicoptère en direction de la Tchétchénie pour fêter le nouvel an avec les militaires. On le voit soulever une coupe de champagne depuis l'appareil, puis rejoindre les soldats et des blessés pour fêter avec eux le passage de la nouvelle année. Comme un symbole, une fois encore, car il sait depuis le départ que son destin est lié à celui de cette guerre en Tchétchénie.
Cette nuit, Vladimir Poutine se voulait décontracté, dans la tenue en tout cas, car le discours, lui, est toujours ferme et patriotique. Cet ancien du KGB, âgé de 42 ans, était encore un parfait inconnu l'été dernier lorsqu'il est devenu Premier ministre. Mais il lui a suffi d'une guerre à outrance en Tchétchénie pour s'imposer comme une star politique.
Je sais ce que j'ai fait en Tchétchénie, mais soyons réalistes, si la société russe n'avait pas été aussi unie, nous n'y serions jamais parvenus.
La guerre en Tchétchénie a fait de Vladimir Poutine l'homme fort que voulaient les Russes. Mais sera-t-il assez fort pour maintenant y mettre un terme?
Trois mois plus tard, le 26 mars 2000, Vladimir Poutine remporte la présidentielle au premier tour, lui, l'inconnu six mois plus tôt. Certains dénoncent des fraudes dans le scrutin, sans effet. La première mesure de Poutine, l'immunité pour Boris Eltsine et sa famille. On le voit, les pièces du puzzle se mettent définitivement en place. À la recherche d'un motif pour expliquer les soupçons autour de l'opération Dagestanaise, de la série d'attentats ou du lancement de la seconde guerre en Tchétchénie, c'est a posteriori que se dessinent les réponses possibles. Faire diversion sur les affaires de corruption, régler le problème tchétchène laissé en suspens depuis les accords de 1996 et soutenir un successeur en la personne de Vladimir Poutine. Mis bout à bout, l'enchaînement des événements trouverait une cohérence. Il faudra attendre officiellement le 16 avril 2009 pour que le régime d'opération dit antiterroriste en Tchétchénie soit levé. Le nombre de victimes de cette seconde guerre est très difficile à établir, jusqu'à 200 000 victimes civiles selon certaines estimations. Et côté militaire, environ 8 000 pour l'armée fédérale russe et 15 000 pour les rebelles tchétchènes. Mais que s'est-il passé entre-temps dans l'enquête sur les attentats? Les députés de la Douma ont lancé la commission Kovalev chargée d'enquêter sur les attaques. Bien, nombre de leurs demandes sont restées sans réponse du gouvernement, d'ailleurs. L'un de ses membres, important, le député libéral Sergueï Yutchenkov, est abattu à Moscou en avril 2003. Un autre, le journaliste d'investigation Yuri Tchekotchkin, meurt en juillet de cette même année. Du côté des protagonistes de la série d'attentats, le Saoudien Khattab, accusé d'en être le commanditaire, est tué lors d'une intervention en Tchétchénie. Chamil Bassaïev lui meurt en 2006 dans une explosion. Ceux qui sont soupçonnés d'être les petites mains sont jugés lors d'un procès. Le premier a lieu en mai 2001. Cinq habitants de la petite république de Karatchaïvo-Tcherkessie au nord du Caucase sont accusés d'avoir préparé les explosifs. En 2004, un nouveau procès se tient avec deux nouveaux inculpés qui sont reconnus coupables des attentats de Volgodonsk. Aucun d'eux n'est présent à Moscou au moment des faits, aucun d'eux n'est tchétchène. Avec le temps, des voix se sont élevées pour dénoncer ces événements tragiques. L'ex-candidat à la présidence, le général Alexandre Lebed, qui s'était posé des questions, et publiquement, et dès septembre 1999, meurt dans un accident d'hélicoptère en 2002. Des journalistes opposants comme Anna Politkovskaya ou un ancien du FSB comme Alexandre Litvinenko dénoncent le rôle trouble joué par le Kremlin et le FSB dans cette affaire. Ils sont assassinés en 2006. Boris Berezovsky, lui, s'exile en Angleterre. Ancien proche de la famille, finalement répudié après l'élection, il laisse également entendre qu'il va rendre public des preuves. Eh bien, il est retrouvé mort à Londres en 2012. Il se serait pendu. On le voit, tous les éléments de cette histoire peuvent être lus aujourd'hui comme la matrice des 25 années qui suivront. Celle de l'emprise d'un homme, Vladimir Poutine, sur un pays, la Russie, par la guerre, les mensonges et la dictature.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les attentats en Russie. Notre invité, Régis Janté. Bonjour.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Journaliste, vous êtes installé à Tbilissi en Géorgie. Merci d'être avec nous. Vous êtes notamment l'auteur de Poutine et le Caucase, publié chez Bûcher Chastel en 2014. Alors on appelle ça, ailleurs comme en Russie, la stratégie de la tension. En gros, on organise des attentats, on fait porter le chapeau aux ennemis et l'affaire est dans le sac. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça, concernant la Tchétchénie et les attentats?
J'aurais tendance à prendre les choses un peu autrement en disant qu'il fallait justifier la relance de la guerre et que peut-être les attentats ont pu servir à ça parce qu'il fallait absolument diaboliser l'adversaire pour justifier une chose aussi importante et qui allait s'avérer aussi terrible que la relance de la guerre en Tchétchénie. Donc ce serait plutôt comme ça que je prendrais les choses avec effectivement des vrais soupçons qui naissent très rapidement et qui font qu'on n'est pas dans le complotisme, mais on a des vrais éléments que vous avez parfaitement rappelé tout à l'heure, notamment avec l'affaire de Ryazan.
Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la situation en Tchétchénie à ce moment-là? À la fois, les Tchétchènes sortent de la première guerre de Tchétchénie avec un accord important et la voie vers une éventuelle indépendance. Mais il y a les clans toujours et ils sont divisés toujours.
Oui, effectivement. En même temps, il y a quand même un sentiment de victoire à ce moment-là et comme vous le dites, de possibilité d'obtenir ce qui est tant rêvé par de nombreux peuples dans la région qui est l'indépendance ou une forme d'indépendance. Il y a sans doute des divisions par rapport à cela parce que est-ce qu'une république de Tchétchénie serait viable ou pas? Quel type de république? Quelle place pour la religion alors qu'elle a forcément joué un rôle important dans la première guerre de Tchétchénie, 1994-1996? Et à vrai dire, depuis deux siècles, la religion a toujours été mobilisée pour que les énergies soient toutes concentrées, soient toutes réunies pour s'affronter, eh bien, à l'Empire de Russie ou bien à l'URSS en d'autres temps, quoi. Donc, on a ce sentiment, effectivement, des divisions en partie liées à l'islam qui sont aussi instrumentalisées, bien sûr, par Moscou pour pouvoir, délégitimer, montrer que l'adversaire est un démon. Donc c'est aussi utilisé par Moscou. Et puis des divisions qui se reflètent en quelque sorte à Moscou, autour du Kremlin lui-même, avec un Eltsine qui avait dit en son temps au peuple de l'URSS ou qui allait être dissoute, eh bien prenez autant de liberté que vous voulez, ce qui avait été entendu par les Tchétchènes par exemple, eh bien soyons indépendants. Et puis une vieille garde du KGB notamment, les militaires, etc., qui eux n'entendaient pas laisser l'Empire se dissoudre.
Alors, il y a eu une première guerre, donc une seconde, qui, elle, en Tchétchénie, durera pratiquement 9 ans. Une guerre horrible, elles le sont toutes. Mais quelle est la particularité de celle-là, s'il y en a une ?
Oui, elle est à peu près aussi horrible que la première. Elle s'étend davantage parce que petit à petit, elle va baisser en intensité en quelque sorte. Je crois que la différence, c'est vraiment la détermination de Poutine, qui est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait à ce moment-là, parler aux militaires, parler à son peuple, manipuler l'opinion et vraiment être déterminé pour obtenir cette victoire. Donc petit à petit, l'intensité baisse, des gens rejoignent ce qu'on appelle la forêt, donc ils vont encore rejoindre en quelque sorte une rébellion islamiste pour encore une fois concentrer les énergies contre le pouvoir, et petit à petit cette guerre va s'éteindre en quelque sorte et aboutir à une sorte de victoire de la Russie, mais qui en réalité va être très ambiguë.
Et où en est la Tchétchénie au moment où nous parlons ?
Elle est dans une situation très paradoxale, parce que nous savons, d'un côté, on a l'impression qu'elle n'a jamais eu autant d'autonomie. Elle vit un peu selon ses propres règles, sous la coupe ou sous la férule plutôt de Ramzan Kadyrov, qui est le fils de celui qui avait justement changé de camp, le père Armat Kadyrov, qui au départ était un indépendantiste et qui, voyant les choses tourner aussi brutalement, voyant aussi l'islam à la faveur de la guerre, l'islamisme l'emporter, avait décidé de coopérer avec Moscou, et c'est son fils qui dirige aujourd'hui cette république d'une main de fer, comme une véritable dictature parfois assez ubuesque, et voilà où on en est, donc avec une pseudo-indépendance et en même temps une république qui est très tenue par Moscou, qui la nourrit notamment, elle dépend complètement du budget qui est envoyé depuis Moscou. Mais les choses sont en train de changer, parce que ce fils, Ramzan Kadyrov, qui est quelqu'un d'ultra violent, est très malade, on le dit peut-être potentiellement mourant, il souffre d'une nécrose pancréatique, et on voit, ça c'est très intéressant, on voit la Russie en ce moment essayer de tester des gens qui pourraient le remplacer en cas de décès dans les mois ou les quelques années à venir, et les gens auxquels pense le Kremlin sont des gens qui ont un pedigree, si vous voulez, politique, de gens qui étaient loyaux à l'époque de la Première et de la Deuxième Guerre par leur famille, qui étaient loyaux au Kremlin et qui n'étaient pas des indépendantistes. Donc alors, on est encore en train de sceller la victoire, en quelque sorte.
Alors, vous disiez que la particularité de la Deuxième Guerre en Tchétchénie, c'est parce qu'elle est menée par un homme à poigne, Vladimir Poutine. D'ailleurs, on va écouter une archive, c'est Poutine qui s'exprime et qui parle du pouvoir.
Que pensez-vous de l'idée d'un peuple uni sous la direction d'un Vladimir Poutine, sage, clairvoyant et juste?
Je sens une certaine ironie dans votre question. Les excès ne font généralement pas avancer les choses dans ce domaine. Ils ont au contraire un effet plutôt néfaste. On ne peut pas se réjouir de voir tous ces bustes, ces monuments, tous ces symboles de l'autocratie dont nous avons hérité. Mais il est très difficile de lutter contre.
Qu'est-ce que ça vous inspire au regard de ce qui se passe aujourd'hui, entre la Russie et l'Ukraine par exemple, et la nature du pouvoir russe qui est totalitaire, on peut le dire?
Oui, effectivement, il dit d'ailleurs, là, en fait, il justifie l'autocratie déjà. Il y avait un fameux journaliste à l'époque qui s'appelait Andrei Babitsky, qui est décédé depuis, et qui avait écrit un livre au tout début de la Première Guerre en disant, mais si la Russie s'engage dans la guerre, alors ça en sera fini, elle aura goûté à la violence et on n'en sortira jamais. Et il avait raison, hélas, sauf que ce Babitsky, ensuite, va être repris par le pouvoir, en quelque sorte, et va défendre ses positions, y compris en Ukraine. Mais effectivement, on a le style de Poutine qui à ce moment-là est mis sur ses rails avec cette violence, cette intransigeance absolue qu'on a vu dans d'autres circonstances où il est prêt à sacrifier la population pour, on va dire, la grandeur de l'État, pour au nom de la raison d'État. Je pense à l'affaire du sous-marin Kursk,
bien sûr,
à la même époque. Voilà, et puis la prise d'otage de Beslan, où il y avait sans doute de quoi discuter, et il va sacrifier des enfants, même en l'occurrence, au nom de la raison d'État. On a déjà tout Poutine à ce moment-là.
Oui, les marqueurs de la brutalité de Poutine s'écrivent dès le début du nouveau siècle.
Affaires sensibles.
Régis Janté, je rappelle que vous nous parlez de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. C'est un pays important, la Géorgie, parmi les pays issus du mécano-soviétique, hein, quand le communisme est tombé. Il se trouve qu'il y a manifestation sur manifestation. La rue exprime son désir européen, alors que le pouvoir est plutôt pro-russe. Quelle est la situation en Géorgie, là où vous êtes?
On est effectivement à un moment de bascule. J'ai tendance à dire ce qui se passe en ce moment, c'est en fait un épisode de la guerre en Ukraine, un épisode politique, celui-là, puisque la Russie essaie toujours, dans cette stratégie post-impériale, de garder le contrôle sur ce qu'elle appelle son étranger proche. C'est pour ça qu'elle fait la guerre en Ukraine, et c'est exactement ce qui se passe en Géorgie, mais cette fois en recourant à des mécanismes qui sont davantage liés aux situations post-coloniales, donc en s'appuyant sur des élites, en l'occurrence un oligarque, pour faire pivoter le pays à nouveau vers la Russie, alors qu'on a une grande majorité, même des Géorgiens, qui rêvent d'Europe et non pas de retour dans la Russie. Donc c'est très tendu, comme ça l'a été en Ukraine, comme ça l'est dans d'autres pays, comme la Moldavie, comme l'Arménie, comme la Biélorussie, le Bélarus. Et donc voilà, c'est aussi d'autres foyers de tension qui sont en train de s'allumer en ce moment.
Et qu'est-ce que ça peut donner en Géorgie? Est-ce que vous sentez une mèche qui s'allume à peine ou qui est déjà allumée?
On sent d'abord un pouvoir très déterminé, parce qu'il faut comprendre ce que c'est que le pouvoir d'un oligarque, pas simplement à cause de l'argent, mais parce que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le fonctionnement politique dans, en l'occurrence, l'espace post-soviétique. Donc, on a l'impression que c'est lui qui est en train de remporter la victoire et qui promet une forme de dictature. Il a vraiment promis mot pour mot il y a quelques semaines ici, et une jeunesse qui manifeste, qui veut rester dans le cadre légal, parce que la Géorgie a connu la guerre au tout début des années 90 avec deux régions séparatistes, donc on n'a pas très envie que ça recommence. Puis on a vu aussi ce qui s'est passé en Ukraine, donc on a encore quelques espoirs parmi les gens qui sont pro-européens de pouvoir se battre au moment des élections parlementaires qui auront lieu à l'automne, mais on sait que ça sera très compliqué avec l'adoption donc d'une loi, c'est ce qui a fait l'objet des manifestations de ces dernières semaines, dites sur les agents de l'étranger, et qu'en fait une loi qui sert de loi cadre pour tuer les libertés, pour mater la société civile et les médias, et une loi qui avait été copiée sur le modèle de la loi russe de 2012.
2 ans et 4 mois après le déclenchement de la guerre par les Russes contre l'Ukraine, l'agression de la Russie contre l'Ukraine, quel chemin vous semble prendre cette guerre aujourd'hui, au moment où on en parle? C'est toujours difficile à décoder une guerre, parce que d'abord l'information est difficile à avoir. Il y a des empêchements stratégiques. Où en est-on, selon vous?
Entre deux pays qui ont une grande différence démographique, et donc ça pose finalement beaucoup de problèmes pour l'Ukraine, et puis aussi c'est une guerre entre deux pays qui finalement ne sont plus dans le même horizon politique. En Russie, on peut davantage sacrifier des vies pour les envoyer à la mort. C'est ce qu'on a vu par exemple avec les près de 20 000 morts, semble-t-il, pour la petite ville de Barmout, qui ne représentait pas un intérêt stratégique très important en tant que tel, symbolique oui, mais pas stratégique. Et notamment les prisonniers qui avaient été envoyés sur le front par le défunt Evgeny Prigogine, vous vous souvenez, ce chef de cette milice qui s'appelle Wagner. Wagner, oui. Mmh. Et ces derniers jours, on a eu à peu près les chiffres, et on nous parle de suite à une enquête de nos confrères de la BBC et de Mediazona, de près de 20 000 morts, juste pour un bout de terre pas très important stratégiquement. Donc ça donne la différence de type de guerre qu'on mène des deux côtés, et on voit que c'est très difficile évidemment pour l'Ukraine. Toute la région s'inquiète, la Géorgie s'inquiète, parce qu'on comprend que si la Russie gagnait, eh bien tous ces pays retomberaient probablement ou serait forcé de retomber sous le joug de la Russie. Donc il y a beaucoup de pessimisme en ce moment, bien sûr.
Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Régis Janté. Je rappelle que vous nous appeliez de Tbilissi, en Géorgie. Merci, au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les attentats en Russie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Enzo d'Hospital.